Le message aujourd'hui est censé être court. Je suis toujours en train de négocier, mais je crois David n'a pas laissé beaucoup de temps. Attendez, je suis un peu bête. J'ai déjà le micro. C'est bon. Le sujet aujourd'hui, c'est les noms de Jésus. Il y a beaucoup de noms. Cette période de l'année est toujours pour moi un moment important de réfléchir sur Jésus et Dieu. Jésus était et reste ce merveilleux. Il est un merveilleux cadeau pour nous. Il est donné pour nous et nous célébrons maintenant à Noël ce cadeau. Cette année, je me suis pensé sur certains des noms de Jésus et leur signification pour nous, chrétiens. Je ne vais pas entrer dans des détails excessifs sur chaque nom. J'ai trois noms, il y a beaucoup plus. Je veux juste simplement fournir une courte introduction à chaque nom pour respecter votre temps et le temps aujourd'hui. Mais je voudrais vous encourager à passer de temps à rechercher les noms différents qui est donné à Jésus, au Jésus. Mon nom préféré de Jésus vient probablement de Jean 1. C'est l'un de mes textes bibliques préférés qui prend encore plus d'importance en cette période de l'année. La parole. Ce verset parle de Jésus comme étant toujours présent, qu'il était là au commencement et qu'il était la parole prononcé, qui a donné la vie au monde. Il est la parole même de la vie. À l'époque de Jésus, le sens des mots n'était pas simplement une façon de communiquer un langage, non. Mais la parole signifiait la vie, la puissance et était personnellement impliqué avec eux. Nous ne parlons pas comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ce nom signifie que Jésus, en tant que parole de Dieu, est la relation parfaite avec Dieu et avec nous. Étant la parole, il nous permet de nous approcher du trône de Dieu avec confiance, sachant que Jésus, en tant que parole de Dieu, a tout fait. Les Grecs utilisaient le terme logos, qui peut être traduit par la raison en français. Ce terme fait également le lien avec le fait que Jésus est la deuxième partie de la Trinité. Et ça, c'est un sujet beaucoup plus grand et je ne veux pas entrer dans les détails maintenant. Mais prends le temps de découvrir. Le deuxième nom que je souhaite mettre en évidence est l'Alpha et l'Oméga. Dans Apocalypse 22, 12 au 13. Lorsque nous traduisons littéralement ces mots, nous les voyons comme le début et la fin. Et nous pouvons traduire cela par le lien que nous venons de faire avec la Trinité, à savoir que le Christ était là au commencement et sera là jusqu'à la fin. Le fin de temps. il est plus simple pour nous de considérer cela sous l'angle du temps. Mais il est beaucoup plus de ça. Cependant, la signification inhérente la plus importante va probablement au-delà du temps et fait référence à un Dieu qui englobe tout. Ce n'est pas juste le temps. Le Christ est l'alpha et l'oméga. Il est l'accomplissement des promesses de Dieu, des promesses de l'Ancien Testament et du plan de Dieu pour restaurer et réconcilier l'humanité. La bonne nouvelle pour nous, chrétiens, est que Dieu nous a donné Jésus pour être tout ce dont nous avons besoin. Il donne nous notre besoin. Ça, c'est l'alpha et l'oméga. Troisièmement, le Sauveur. C'est une question facile. Jésus est notre Sauveur ultime. Il nous sauve de la séparation avec Dieu pour l'éternité. Il meurt pour nous racheter et nous donne le Saint-Esprit pour nous renouveler et nous guider, nous protéger, nous donner la puissance et la force de traverser les épreuves et les tribulations afin que nous puissions terminer notre vie dans la gloire avec lui pour l'éternité. C'est le don ultime. Il est le Sauveur. Aujourd'hui, nous avons déjà écouté beaucoup de les noms de Jésus. Nous avons utilisé beaucoup de noms. Quatrièmement, agneau de Dieu. Ce nom fait référence au symbolisme du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Le parallèle vient de la Pâque où le sang d'agneau sacrifié, parfait, était placé sur les montants de la porte pour protéger les Israélites de l'ange de la mort. Jésus était parfait en toutes choses. Il était sans péché, libre de toute accusation, et il a pris sur lui toute la punition qui devrait appartenir à chacun d'entre nous, ici, aujourd'hui. Et à chaque personne qui avait su et chaque personne qui vivra dans le futur. Il a déjà fait. Le Christ a été le sacrifice ultime pour payer le salut du monde. Dans le livre d'Apocalypse, nous voyons l'image la plus incroyable de toutes, où toutes les créatures vivantes et les anciens se prosternent devant l'agneau pour l'adorer, car il a acheté tous les gens avec son sang. Cinquième, le bon berger. J'ai déjà prêché ici dans l'église sur le fait d'être un bon berger. Alors, veuillez écouter ce message en ligne. C'est toujours là, mais très rapidement. C'est Jésus lui-même qui s'est appelé le bon berger. C'est lui-même qui s'appelait. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les moutons, ils sont un peu fous. Ils sont des animaux assez vulnérables. et le berger a pour tâche de s'occuper d'eux et de s'assurer que tous leurs besoins sont satisfaits. Ça, c'est le rôle de berger. Nous devons remercier Dieu de nous avoir donné Jésus qui est allé jusqu'au bout de la terre pour protéger son troupeau, nous, son peuple. Sixième moment, Emmanuel. Le nom d'Emmanuel apparaît pour la première fois dans le livre d'Isaïe, où il est question de la venue de Christ pour protéger son peuple. À l'époque de Matthieu, cela a été interprété comme une prophétie de la naissance de Messie et de l'accomplissement ultérieur des Écritures. Le sens littéral d'Emmanuel est « Dieu avec nous ». Ces Écritures parlent d'une présence physique de Dieu sur la terre, où le Christ est né dans ce monde en tant qu'homme pour vivre parmi son peuple. C'est un théologien parle de l'Emmanuel comme d'un retour à l'état de jardin d'Éden, où Dieu marche dans le jardin avec Adam et où revient vivre parmi eux. Quoi qu'il en soit, c'est un grand privilège pour l'homme que le Christ soit venu vivre parmi nous et que nous puissions nous identifier à lui en tant qu'homme. Les habitants de l'Ancien Testament attendent avec impatience le jour où Dieu reviendrait sur terre pour vivre parmi les siens. Nous pouvons nous réjouir que cela s'est déjà produit. Jésus est venu nous sauver pour que nous puissions vivre éternellement. C'est déjà fait. Le septième moment, la lumière du monde. Et il ne marche pas. Non. Tu peux m'aider? Il est là. Ok. Nous parlons souvent de la lumière sur une colline ou de lumière sous une table où nous devrions être la lumière du monde, etc. Cela nous donne une grande signification. Je suis un scientifique en formation et cela affecte ma pensée. On m'a appris que l'obscurité et l'absence de lumière. C'est important. C'est l'absence de lumière. L'obscurité ne peut exister que parce qu'il n'y a pas de lumière. La lumière vient et l'obscurité n'existe plus. Les ténèbres peuvent être assimilées au péché et au mal, et la lumière est la vérité. Lorsque la lumière vient, la vérité est réveillée, et la péché est vue exactement pour ce qu'il est. C'est ce que le Christ a fait lorsqu'il est venu sur terre. Jésus est descendu sur terre et à travers lui, la gloire de Dieu a brillé. répandant la lumière et la vérité parmi nous par son œuvre et ses paroles. En tant que chrétiens, nos yeux ont été ouverts et nous sommes capables de marcher dans la lumière que le Christ a apportée dans ce monde. Sa lumière nous aide à voir la vérité de ce qui nous entoure et nous montre le chemin de Dieu. Numéro 8, le Messie. En hébreu, le terme Messie signifiait honte. Honte. D'accord, Messie. C'est d'être consacré ou être mis à part pour une tâche. Jésus était le Messie. Il serait l'accomplissement ultime de la prophétie de l'Ancien Testament. Le symbolisme de ceci est assez intéressant. Lorsque nous revenons à l'époque de l'Ancien Testament, avec le grand prêtre et le tabernacle, nous trouvons un parallélisme intéressant. Le grand prêtre était mis à part pour une tâche spécifique. Il était la seule personne capable d'entrer dans le Saint des Saints. Il ne pouvait y entrer, qu'avec une corde et une cloche autour de la taille. Si dans la sainteté parfaite de Dieu, il était trouvé impur, il sera frappé de mort. Ses serviteurs seraient capables de retirer son corps. Super. Jésus était le Messie ultime, où sa seule tâche était de venir sauver le peuple, afin que nous puissions entrer dans une relation complète avec le Père et ne pas passer par le prêtre. La mort de Jésus a eu pour effet de déchirer le rideau en deux, ouvrant la voie à une relation libre avec le Père. Quelle tâche! Ami, c'est un homme intéressant. Dans mon église en Afrique du Sud, nous avions l'habitude de parler de Améti avant le fonction. Si vous regardez la vie de Jésus et sa relation avec les disciples, vous pouvez voir qu'ils étaient avant tout des amis. Cela signifie que nous pouvons avoir confiance en Jésus, que nous n'avons aucune raison d'avoir peur, que nous pouvons compter sur lui en toute chose et à tout moment. Que recherchez-vous dans une amitié, une véritable amitié? Jésus est celle-là pour nous. Le Fils de Dieu. Nous sommes tous familiers avec le nom de Fils de Dieu. Mais savons-nous vraiment ce qu'il signifie? En bref, il signifie que quelque chose de plus grand que ce que nous pensons être un fils. Il est pleinement homme et en même temps pleinement Dieu. Cela signifie que le connaître signifie que nous pouvons aussi connaître Dieu. Ce que l'homme a essayé de faire dans le jardin d'Éden, en mangeant le fruit de l'arbre interdit, Dieu l'a fait pour nous en venant vivre sur cette terre en tant que Jésus, afin que nous puissions apprendre à le connaître et à lui ressembler davantage comme nous avons vu Jésus sur terre. Connaître le Fils, c'est connaître le Père. Je changeais quelques-unes et passais à ce merveilleux conseiller, Dieu puissant et prince de la paix. Ce n'est pas seulement un homme qui a été donné à Jésus, mais c'est aussi sa mission ici sur terre. En tant que merveilleux conseiller, nous pouvons nous attendre à ce qu'il fasse des choses étonnantes, mais pas seulement pour nous étonner, mais avec une sagesse absolue, comme on peut l'attendre d'un roi ou d'un chef. Il est un Dieu puissant, quelqu'un qui assure la protection et l'approvisionnement de son peuple. Il est notre force. En tant que prince de la paix, il nous est rappelé qu'il est venu dans le monde pour apporter la paix et non la guerre, pour rapprocher l'homme et Dieu, et qu'il est mort pour nous réconcilier avec le Père. Quelle mission! Et la dernière, quelle surprise, Jésus. Le dernier, mais non le moindre. Le nom que nous connaissons le plus, il signifie sauveur. Marie et Joseph ont reçu l'ordre d'appeler le fils Jésus parce que il allait devenir le sauveur du monde. Il est descendu du ciel comme un bébé, mais pas pour lutter contre les principautés de temps, mais pour donner sa vie et verser son sang pour nous. Il n'est pas venu pour chercher un titre plus élevé, pour être grand et pour se proclamer le meilleur. Il est venu pour sauver son peuple, une mission dont nous bénéficions aujourd'hui. J'en arrive ainsi à la fin de cette brève étude. Le cadeau que nous célébrons à Noël ne peut pas être nommé d'un seul nom. Aujourd'hui, j'ai par Théage 12, il y a 14, un homme qui décrive ce qu'il était et ce qu'il a fait pour nous. Et croyez-moi, il est des autres noms qui lui ont été donnés. Je vous invite à prendre le temps de découvrir davantage son caractère à travers les noms qui lui ont été donnés. Merci beaucoup.